Salut, vous êtes bien sur le 89.5 de Radio Duo ou sur radioduo.org et c'est l'heure d'écouter Des litres de salive. Des litres de salive, le One Meuf Show qui s'occupe de questions sociales et de fluides corporels. Ce soir, c'est bleu sur le cul et musique satanique. Avec aussi un petit blabla sur un concept que j'aime bien en ce moment qui est le concept de croyance en un monde juste. Et puis un petit peu de pornographie à la fin, parce que ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Pour commencer, un morceau pour se mettre dans l'ambiance. Novembre, dimanche soir, la douleur pas exquise du tout des oppressions. Et puis les bouts d'énergie qui subsistent et nous empêchent d'être submergés. Et puis bien sûr, Satan. Chaleur humaine. Alors, on vient d'écouter le groupe Denigrata avec le morceau Comfutatis Maledictis. Eh oui. Et ça vient d'une compile quelqu'un m'a conseillé, une compile Bandcamp qui s'appelle Black Metal Rainbows. Et c'est une compile de queer et antifasciste black metal. Voilà, voilà. We'll be right back.
c'est le moment de libérer la chatte.
Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois?
J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés.
Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc.
Mais combien de fois t'as simulé?
Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis.
Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos.
Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre?
Moi, j'adore les histoires de pénis.
Oh là là, voilà un béga que j'aimerais me faire.
Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro ?
Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus.
Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres.
Et voilà, des litres de salive. On va attaquer la première thématique de l'émission de ce soir. Une thématique qui parle de bleu sur le cul. Et voilà, bleu sur le cul, récit autobiographique et analyse critique. Attention. Je vais parler de trucs qui tournent autour de questions de violence liées au genre. Mais en même temps, on ne parle pas de coups, d'agressions, de violences qui mettent en danger vraiment l'intégrité physique, mais quand même un petit peu. Et en fait, on est sur le tout début de l'échelle du continuum des violences. Voilà, c'est la banalité. Mais on parle quand même de marques physiques faites par une autre personne. Du coup, voilà le trigger warning sans fin de quoi ça va parler en gros. Et si vous n'avez pas trop envie d'entendre parler de ça... Vous pouvez éteindre la radio, faire autre chose, que sais-je. Du coup, les bleus sur le cul, hein, dans le cadre de partager de la sexualité avec des cis-types, hein, je précise, hein, et ben c'est pas un truc qui m'est arrivé, disons, quotidiennement, mais quand même, il y a eu plusieurs occurrences. Genre, c'est pas un truc, ça s'est produit plusieurs fois quand même dans ma vie. Et en discutant avec des copines, et ben j'ai capté que c'était un truc en fait. Que quand t'es une meuf qui a des échanges sexuels avec des cis mecs, ben des fois ça arrive, t'as des bleus, t'as des marques physiques. Voilà, d'après ce que je comprends en tout cas. Du coup, je vais vous raconter trois occurrences de fois où ça m'est arrivé de me retrouver avec des bleus sur le corps. Première occurrence, il y a fort longtemps, fort longtemps, hein, j'ai fait un voyage en Irlande et voilà, j'ai pécho un surfeur, hein, tout le monde fait des erreurs dans la vie et tout ça, bref. Et dans la nuit, donc je me suis réveillée chez cette personne, je me suis extraite de son lit, comme ça, et après quelques difficultés de trajectoire, je suis rentrée à l'endroit où j'étais hébergée. Donc j'étais encore ivre, je m'y suis réveillée encore ivre pour aller prendre un bus à 7h du mat'. Grosse ambiance, donc je me lève à 7h du mat', je vais au lavabo pour m'asperger le visage d'eau dans le vain espoir de décuver un peu et de regagner en fraîcheur. Et là, en me voyant dans la glace, j'ai un temps d'arrêt et vraiment de stupéfaction parce que j'avais un collier de suçon autour du cou. Et c'est pas une façon de parler, c'est pas une image, hein. J'avais pas quelques suçons épars comme ça, j'avais pas 3-4 petits trucs, non, vraiment tout autour de mon cou, j'avais une ligne, un collier de gros suçons de couleur très foncée qui constituait vraiment un véritable collier. Et je me souviens d'avoir été un peu choquée, mais en même temps d'avoir raconté le truc en rigolant aux copines et puis que plutôt ça avait été un sujet de blague. Voilà. Deuxième occurrence. Alors c'était aussi il y a fort longtemps, Je pense que j'avais début de vingtaine et je passe la nuit avec un pote après avoir fait la fête. À un moment, je sens qu'il me serre un peu trop fort et je me dis que quand même, il pourrait se calmer un petit peu, mais bon, je... Voilà. Juste, il serrait trop fort. Et le lendemain, je vais me laver. Et dans la glace, j'aperçois une forme sur ma peau, sous mon aisselle et un peu dans mon dos. Et j'ai un peu du mal à capter ce que c'est. Et puis, je suis un peu sidérée quand je comprends ce que c'est. C'est que j'ai un gigantesque hématome qui a la forme d'une main. Un gigantesque hématome en forme de main imprimé sur ma peau. Une espèce de méga bleu fait par la main de ce type. Hein, et on distingue bien la forme générale de la main, on distingue la forme de ses doigts. Et puis, enfin voilà, j'avais même pris le truc en photo à l'époque, c'était vraiment impressionnant. Voilà, ça c'était pour la deuxième occurrence. Pour la troisième occurrence, alors donc c'était encore ivre, encore dans un cadre festif aux surprises. Et du coup, rentrer avec un type, se pécho, sentir un peu de douleur au niveau de la chair et du gras des fesses, mais bon, en étant ivre, tu sens pas vraiment la douleur des fois. Et puis le lendemain, se réveiller, bon, pas hyper fraîche, et se rendre compte que bah, j'ai mal un peu sur la peau. Et puis je me regarde dans la glace, et là, plein de bleu, bien bien bleu sur mes fesses. Bleu et violet, très très marqué, et vraiment plus d'une dizaine. Voilà. À présent, voyons les points communs entre ces trois moments marquants. Le premier point, c'est que bon, déjà, c'est qu'avec des types 6, hein, je l'ai déjà dit, les bleus sans discussion préalable et sans avoir discuté ensemble de si je voulais avoir des marques sur mon corps ou pas, c'était qu'avec des types 6. Et bon, c'est juste trois petites expériences, juste dans ma vie à moi. On peut pas en faire une vérité, une statistique, mais bon, n'empêche, trois expériences sur trois, c'était avec des 6 types. Point commun entre ces trois histoires numéro 2, l'alcool. Alors, vous allez me dire, peut-être, je devrais pas faire du sexe en étant ivre. Mais non, vous allez pas me dire ça. Parce que ça serait blâmer la victime, et puis que vous êtes pas des quiches. On reparlera de ça tout à l'heure, hein, de blâmer les victimes. Mais moi-même, des fois, je me pose la question de l'alcool. En tout cas, je me la suis déjà posée, à pas mal de périodes. Parce que bah, c'est une drogue que je consomme souvent, qui peut me rendre vulnérable. Et bon, j'ai très peu vécu d'agression sous alcool proportionnellement au nombre de fois où j'étais ivre et en présence de 6 types. Mais si j'ai très peu vécu d'agression dans ces conditions, c'est pas du tout grâce au super comportement des types. C'est seulement parce que j'étais hyper partante pour hyper niquer avec vraiment beaucoup de gens. Et d'ailleurs, dans une émission de France Culture là, sur les meufs et l'alcool, il y a Dépente qui parle de ça, qu'en fait... de pas vivre beaucoup d'agressions quand t'es sous alcool, c'est jamais grâce au type, en fait. C'est jamais grâce au bon comportement de ces personnes, c'est plutôt parce que toi, de toute façon, t'étais partante. Mais graduellement, à des moments où j'avais moins envie de ken tout le monde, et où aussi mon vécu faisait que je devenais plus sélective de ce qui était ok ou pas, et ben soudain, j'ai capté l'absence d'attention à mon consentement. En particulier dans des contextes festifs. Point commun numéro 3. Alors, l'intensité ressentie. La fausse intensité, attention, hein, comme avec l'histoire des comportements abusifs qui donnent une impression d'intensité dans la relation, physiquement, c'est un petit peu pareil. C'est un peu dans le package de la grande arnaque hétérosexuelle de ressentir des trucs forts qui sont en fait des gros red flags et on les prend comme les signes d'une grande passion qui torture le pauvre cis-type et dont on reçoit les éclats. Mais en fait, non, c'était juste le patriarcat et c'est tout moisi. Quatrième point commun, c'est pas grave. On est habitué à bien le prendre, à pas en faire un drame et même à rigoler en fait. De ce qui constitue quand même une forme de violence. On est un peu gêné, mais on préfère en rigoler parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment éviter ce genre d'événement. Et point commun numéro 5, c'est la surprise. Voilà, pour les trois occurrences, j'ai vraiment eu un moment de sursaut, de sidération, de stupéfaction face aux marques que je voyais laisser sur mon propre corps. Allez, on reprend son souffle à présent on va passer aux hypothèses que j'aimais, hein, moi, perso, pour expliquer ce genre de comportement, ces comportements de pincement et de roulotage, enfin bref. Donc les hypothèses, bah, première hypothèse, je dirais que plutôt c'est une espèce de brutalité maladroite de six types inattentifs et qui sont peut-être en recherche de correspondre aux normes de leur genre en étant brutaux. Peut-être que eux aussi, ils croient que la brutalité, c'est la passion à ce moment-là. Et n'oublions pas que deux de ces histoires se sont passées avec des types très jeunes, donc enfin, bah, je sais pas si la masse s'améliore avec le temps et l'expérience, hein, mais j'ai envie d'y croire. Mais après, j'ai envie d'y croire, mais il faut pas. Mais bref, peut-être que pour certains, l'envie d'adhérer à une certaine norme et l'absence de remise en question de cette norme vient, en partie, de leur absence d'expérience dans la vie, en plus de venir de leur cistiprie. Voilà. Hypothèse numéro 2, alors c'est aussi possible que ça relève d'une inconscience du corps de l'autre, d'une forme de négligence du respect de son intégrité, d'un oubli, que nos actes peuvent marquer d'autres personnes et d'autres corps. Une très très mauvaise estimation de ce qui peut faire mal et marquer un autre corps. Et puis, en gros, bah, ça peut venir d'une absence totale d'empathie, quoi. Voilà. Mon hypothèse finale, hein, la plus sérieuse, c'est que les hommes cis, ils deviennent des écrevisses maléfiques quand ils sont alcoolisés. Et que c'est eux qui devraient arrêter immédiatement de picoler.
Yeah.
on vient d'écouter le groupe Pupil Slicer, un groupe londonien, qui était aussi sur la compile Black Metal Rainbows dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la chanson s'appelait Thermal Runaway. Voilà. Tout à l'heure, j'ai mentionné que peut-être si je voulais pas avoir des bleus sur le cul après le sexe, je devrais éviter de faire du sexe avec des cystites bourrées. Bon. Mais en fait, adopter une logique qui responsabilise la personne victime, ça correspond. Alors, dans ce cas-là, ça correspond aussi à l'hétéropatriarcat dégueulasse, hein, mais ça correspond à un concept, un principe de psychologie sociale qui est appelé la croyance en un monde juste. Et ça a des applications un petit peu partout dans la vie. Ce concept, il m'a permis de poser un mot sur un truc vraiment pénible auquel je me heurte souvent dans la vie et puis dans des discussions aussi, et qui apparaît un peu tout le temps et inopinément en filigrane dès qu'il y a un truc qui se passe mal pour quelqu'un. Et ce dont je vais parler, c'est mieux expliqué, plus détaillé et avec toutes les références de la littérature scientifique dans une vidéo YouTube qui est tirée d'une conférence d'une personne dont le pseudo est Chaika Axo. C'est une des personnes qui anime la chaîne YouTube Horizon Gul. Donc on peut trouver la vidéo sur la chaîne Horizon Gul. Je vous lis la présentation de la vidéo pour commencer. Bien fait, tu l'as bien cherché, tu n'as que ce que tu mérites. Nous sommes toutes fréquemment exposées à des injustices, des drames, des accidents, des maladies qui surviennent de manière contingente et indépendante des actions des victimes. Étrangement, on peut observer que ces victimes sont parfois blâmées comme si au fond, elles étaient d'une manière ou d'une autre responsables de leur sort. Comme si au fond, chacun obtenait ce qu'il mérite. Cette conférence explore ce qui permet de mieux saisir ce type d'attitude via une théorie inaugurée par le psychologue Melvin Lerner, la théorie de la croyance en un monde juste. Alors déjà, ce qu'on peut dire après ce descriptif, c'est que l'utilisation du terme croyance, elle n'est pas anodine. On a tous des croyances, pas toujours spirituelles ni religieuses, mais des croyances sur le fonctionnement du monde, qui nous aident à mettre du sens et parfois qui font qu'on a une vision des choses qui correspond à notre point de vue, à nous, mais qui est une vision erronée. La croyance en un monde juste, c'est un principe qui explique les trucs pas cool qui arrivent à des gens par des choses qu'elles ont fait, mais où la logique des causes et conséquences est complètement biaisée, mal appliquée et absurde. Quand on se penche un peu dessus, quoi. Ça a tendance à être utilisé pour blâmer les victimes d'agressions, donc c'est le même mécanisme, et en particulier d'agressions sexuelles. On entendra des remarques sur la longueur des jupes, l'heure de la nuit, et bien sûr la consommation d'alcool. Mais il y a d'autres applications pour, par exemple, rendre moins visible la responsabilité d'une institution ou de supérieurs hiérarchiques. Enfin là, je parle direct du but, hein, de rendre moins visible des problèmes liés à une institution, mais les personnes ne font pas ça consciemment, a priori. Enfin, pas toujours, en tout cas. Mais du coup, voici un exemple qui est vraiment complètement fictif, et qui m'est absolument pas du tout arrivé récemment. Alors, au travail, quelque chose se passe de façon pas très fluide à un moment. C'est rien de grave, mais voilà, il y a un petit moment désagréable avec des jeunes que je côtoie dans le cadre de mon travail salarié. Et dans le cadre de ce travail salarié, j'ai été vivement encouragée à communiquer avec mes supérieurs le plus possible, et à faire part des soucis que je peux rencontrer, etc. Donc, je fais donc ça, j'en parle. Et la supérieure à qui j'en parle me dit des trucs bateaux qui n'étaient pas vraiment possibles à appliquer sur le moment, mais ok, admettons. Et puis à un moment, elle me dit « Si le jeune s'est permis de faire ça, c'est qu'il a dû sentir une faiblesse chez vous. » Et là donc on a tout le truc de la croyance en un monde juste, c'est-à-dire que ce qui s'est passé de désagréable pour moi est en fait de ma faute, de ma responsabilité. Et c'est lié à mon attitude et ou à ma personnalité carrément, peut-être. Je sais pas, c'était pas explicite. Et on a dans le même mouvement, par ces paroles, une invisibilisation d'éventuelles causes réelles de l'événement, à savoir par exemple que je travaille pour une institution qui m'a embauchée en sachant très bien que je n'avais jamais encadré un public d'adolescents et qui ne m'a absolument pas formée pour le faire à aucun moment. l'irresponsabilité de cette institution et donc acte, enfin l'irresponsabilité et la responsabilité, ouhou, les deux en même temps, sont donc activement couvertes par la personne qui en fait partie, qui en fait partie en CDI et mieux payée que moi, quoi. Enfin, et une des particularités de cette situation, c'est que la personne qui me surresponsabilise a aussi autorité sur moi. Et c'est pas très exceptionnel comme procédé d'être une personne d'autorité et de surresponsabiliser les personnes sur ce qui leur arrive. Par exemple, si vous avez des parents, ça a dû vous arriver, je pense. Sûrement, à un moment. Mais j'espère que non, mais probablement quand même. Voilà. Ce principe de croyance en un monde juste, il s'applique aussi lorsqu'on parle de choses positives qui arrivent aux personnes. Et ça régit pas mal l'idée de mérite. L'idée que ce sont les personnes méritantes qui obtiennent des statuts sociaux avantageux, de l'argent, de la reconnaissance. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois, non seulement il y a une logique complètement aberrante, enfin il n'y a pas de logique, mais que ça sert aussi à responsabiliser l'individu. On cherche la cause dans la personne et pas dans le contexte. Et ce mécanisme, il participe à l'invisibilisation des oppressions, voire au déni de leur existence. Allez, on fait une petite pause musicale avant de reprendre sur le sujet.
Satan, moi avec mes copines, on était concubines. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu combines? Tu sais, la vie est tellement triste, on attend l'antéchrist. Mais on a l'impression que tu t'ébines, je mange du jambon tous les vendredis avec du fromage. Je
sure.
proposer une partout dans la galaxie. Les scientologues m'ont envoyé Tom Cruise, mais il est trop petit. Faux douce et plein de grands blagues baraqués, mais faux égorger des poulets. J'ai peur de salir mon fusil. Moi je veux être la maman du fils de Satan. Je suis sûre que ça doit être très très amusant d'être la reine de l'enfer. Je ferai ma cagole en guépière au milieu des coulées de lave et des volcans. Moi je veux être la maman du fils de Satan. Je pense que ça doit être très intéressant. Je serai une mère exemplaire, même si mon marmot est ouvert. S'il a des cornes comme son papa, c'est plus fashion comme ça.
Et on vient d'écouter un morceau qui s'appelle « La maman du fils de Satan » par un groupe qui s'appelle « La fanfare de la fatalité ». Et revenons maintenant sur la thématique de la croyance en un monde juste, donc ce concept de psychologie sociale, ouais. Et du coup, on va essayer de revenir là-dessus et de synthétiser. Donc... Les personnes humaines, elles ont envie de se rassurer déjà et de rationaliser les choses. Et des fois, c'est bien pratique de se réconforter de sa propre impuissance en se disant que c'est la responsabilité de l'autre qui est en jeu et de compenser une injustice flagrante dans sa tête en se disant qu'il y a un sens derrière tout ça, que tout ça arrive pour une raison. Se dire que les comportements de violence ne touchent que les meufs qui l'ont cherché, de se dire qu'on n'est pas responsable en tant que mec, que blanche, que personne valide, que personne cis, qu'individu appartenant à des catégories privilégiées, qu'on n'est pas responsable de l'oppression des autres et de ce qui peut se passer par rapport à ça. Et c'est aussi bien pratique de se dire que en fait, on a du pouvoir et tout a un sens. Et puis, de penser que, par exemple, face à la maladie, guérir ne dépend que de notre volonté. Enfin, c'est pratique, sauf que ça ne marche pas. Cette croyance en un monde juste, elle est quelque part liée aussi à ces nouvelles spiritualités qui surresponsabilisent l'individu et nient complètement le contexte social, voire le contexte médical. Il y a des personnes de YouTube qui parlent beaucoup de ces questions, alors notamment la chaîne Méta de Choc, bien qu'il y ait a priori un ou deux épisodes où elles disent des grosses bêtises sexistes. Et malheureusement, je ne me souviens pas dans quels épisodes, donc je ne peux pas vous aider à les esquiver, mais en tout cas, son travail global sur les questions des nouvelles spiritualités, des diverses arnaques, problèmes théoriques, problèmes éthiques autour de tout ça, son travail global sur tout ça est très intéressant et très conséquent aussi. Voilà, la chaîne Méta de Choc. Mais donc, la croyance en un monde juste, ça aide à la fois à croire qu'on a du pouvoir sur les choses et qu'elles ont un sens. Et ça se comprend qu'on a envie de faire ça, parce que oui, vous voyez le mal-être existentiel, la douleur, la mort, tout ça, youpi. Et cette croyance, elle nous pousse à surresponsabiliser les autres individus par rapport à ce qui leur arrive. Et ça nous laisse penser que si soi-même on est préservé, c'est parce qu'on a fait ce qu'il faut pour ça. Et dans un cadre pareil, en fait, les oppressions, ça n'existe pas. Il y a d'autres catégories de personnes. Alors, j'appellerais ces personnes les mi-croyantes. Et c'est une catégorie à laquelle je ne suis moi-même pas à l'abri d'appartenir sous le coup d'une émotion forte, dans une réaction spontanée d'envie de déni, ponctuellement. Mais pour certaines personnes, c'est un mode permanent. Les mi-croyantes, on peut les reconnaître... les mi-croyantes numéro 1, elles reconnaissent l'existence de certaines oppressions. Voilà, du principe d'oppression en général et de certaines oppressions. Mais ces personnes, elles ne reconnaissent pas toutes les oppressions. Généralement, elles reconnaissent plutôt celles qui les concernent directement ou qui ont été habilitées par les personnes, les machins de théorie qu'elles lisent. Enfin voilà, c'est chiant. Donc, elles ne reconnaissent pas toutes les oppressions. Et typiquement, comme exemple, nous avons les communistes. Hein. Je plaisante, mais à moitié. Et hiérarchiser les oppressions, ce n'est pas hyper mieux que de les nier. Voilà. Et nous avons un autre style de personnes mi-croyantes en un monde juste. C'est que des personnes reconnaissent l'existence des oppressions, de toutes les oppressions, hein, mais les oppressions qu'elles pourraient exercer, elles ne sont pas concernées parce qu'elles sont de bonnes personnes. Comme les six types qui savent que l'oppression des meufs, ça existe. Là, c'est terrible. Hein, mais moi, je suis gentille et j'ai des lunettes, alors je ne peux pas être un oppresseur. D'écouter un morceau qui s'appelle Die Turf Die par un groupe qui s'appelle Perpetually Pissed. Voilà, c'est toujours hein, la compile, la super compile black metal queer qui s'appelle Black Metal Rainbows. Voilà, sur Bandcamp. C'est sympa. C'est sympa. C'est l'heure de la pornographie. Alors, il faut éloigner les oreilles mineures, tout ça, du poste. Je vous laisse le temps de le faire. Allez, éloignez-les. Ouais. Bon, on va dire que les personnes trop jeunes et les personnes qui n'ont pas envie d'entendre parler de cul se sont éloignées. Il n'y a pas grand-chose quand même qui fasse pas mal du tout dans la vie. Il n'y a pas grand-chose qui épargne le pincement de la mélancolie. Le pincement. Mais on apprend à préférer les bleus qu'on choisit. Il y a une soirée, un bar, un endroit. Le dernier endroit où t'as eu envie de quelqu'un, on peut imaginer, c'était n'importe où, hein, tu peux imaginer ce que tu veux. Accoudé au bar, les hanches se frôlent, à peine au début de la conversation. Au début, quand on n'est pas sûr. On s'est croisé pas mal de fois déjà, on s'est beaucoup regardé et là, en se parlant, en sentant le contact de la hanche de l'autre contre soi devenir moins hésitant, on se dit que probablement ce sera pour ce soir. Et on rentre avec l'autre. Ce soir, c'est ce qui arrive à Swan et à Andy. Et elles rentrent ensemble chez Andy, se posent pour boire des trucs. Et puis les trucs sont posés aussi et tout doucement, les genoux se touchent. Les bustes se tournent l'un vers l'autre. Andy caresse les cheveux de Swan, attire sa tête vers lui et le regarde dans les yeux une seconde, avant de l'embrasser, d'abord du bout des lèvres, puis mouille ses lèvres et les fait glisser sur la bouche de Swan, se glisse vers l'intérieur d'une bouche qui s'entrouvre, et c'est tout son corps concentré à cet endroit, dans son point de chair contre chair humide, le souffle et l'envie d'aller plus loin dedans. Alors, Swan prend la main d'Andy qui est derrière sa tête et lui imprime un mouvement. Lui montre comment saisir sa nuque et appuyer. Andy se plie à cette demande silencieuse et force un peu. Les bouches s'ouvrent un peu plus et la langue d'Andy vient prendre de la place dans la bouche de Swan. Prendre de la place dans sa bouche, la pénétrer et la baiser. If I die, I'm dying. If I die, I'm a 35. Les mains de Swan caressent le dos d'Andy. Ses ongles frôlent la peau sans la griffer, juste pour la réveiller. Et elles enlèvent leur haut, peau contre peau à présent, torse qui se frotte. Leurs cuisses sont ouvertes, leurs organes sont éveillés et presque douloureux d'attendre du contact. Mais elles font durer encore un petit peu. Swan se met à cheval sur Andy, frotte son pubis contre lui, caresse son torse. Attrape sa main et met deux des doigts d'Andy dans sa bouche, les suce. Puis elle se place à califourchon sur une des cuisses d'Andy et marque un temps d'attente. Se penche alors en avant et murmure à Andy « J'ai envie que tu me fasses un peu mal. Je veux que tu pinces mes hanches et mes fesses et que tu le fasses assez fort. Je veux avoir des marques de cette nuit demain, si tu es d'accord. » Andy dit qu'elle est d'accord. Et elles enlèvent leurs pantalons et n'ont plus que leurs sous-vêtements sur elle. Swan reste à cheval sur la cuisse d'Andy, colle son sexe contre sa cuisse, et puis sa propre cuisse contre le sexe d'Andy qui est assis sur le canapé. Et elle se frotte lentement, et Andy commence à saisir les fesses de Swan. Et elle remonte un peu les côtés de sa culotte pour découvrir plus de chair, et le pince en lui roulant des grosses pelles, le pince de plus en plus fort. En appuyant de plus en plus et en écoutant les gémissements de Swan. Ça va, c'est pas trop fort? Non, tout va bien, tu peux faire un peu plus. Alors, Andy pince plus fort. Je vais dire aïe, lui glisse Swan. Mais je ne veux pas que tu arrêtes. Je veux que tu arrêtes seulement si je dis stop. Andy pince le côté des fesses encore plus fort. Swan fait Aïe, aïe, c'est bon, continue. Et Andy se frotte plus fort contre la cuisse de Swan, y elle est complètement partie. Complètement ailleurs et en même temps pile dans ce moment, son sexe complètement réveillé. Andy attrape Swan, le hamet sur le canapé, retire sa culotte et se place face à lui. Pour lécher, pour sucer le sexe de Swan. Et en faisant ça, Andy se met aussi à saisir les hanches de Swan un peu fort et Swan lui dit « Oui, vas-y ». Alors Andy serre plus fort, puis se met à pincer aussi cet endroit-là, à le pincer pour y faire des bleus et pour faire jouir Swan. Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu chaud là. Voilà. Pour rester dans l'ambiance, tout ça. On va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Twin Temple, qui se décrit comme faisant du doo-wop satanique. Voilà, j'adore. Et le morceau s'appelle Let's Have a Satanic Orgy. Est-ce bien la peine de traduire ? Si, d'accord. C'est parti pour l'orgie satanique. Allez, Twin Temple, let's have a satanic orgy.
Let's have a satanic orgy. In the forest, dead of night, the full moon is the only light. The magic circle of you start to sway. Witches have been out to play. Come to the Sabbath, take a ride on my broom, make it a man a moon. Maybe we'll make love to you. Come to the Sabbath, go down on demons from hell. Ooh, just like that. Under my spell, to the Sabbath with me. Let's have a satanic orgy. Rhythm's got you dripping blood and sweat. You feel your heart pounding in your chest. Things go high. The pitch, you've never been up to, you've been up to a pitch. Come to the Sabbath, take her out of my room. We'll make it under the moon. Maybe I'll make love to you. Come to the Sabbath, go down on demons from hell. Under my spell, come to the Sabbath, come to the Sabbath with me. Let's have a satanic orgy. Like that, you're under
under my spell.
Et voilà, c'était donc Twin Temple, Let's Have a Satanic Orgy. Je ne me lasse jamais de prononcer ces mots. Il me reste du temps, en fait, il me reste 10 minutes. Alors, est-ce que Alors, je vais en profiter pour faire une petite... Pour dire un petit mot sur la bisexualité, ça faisait longtemps, oulala. J'aimerais répondre à une question du courrier des auditeuristes. Non, pas du tout, en fait. Je vais répondre à une question que je me suis posée, et cette question, c'est: étant une meuf cis bi ou pan, est-ce que je deviens hétéra quand je ken avec un cis type? Non. Voilà. Allez, d'accord. Non, je ne deviens pas hétéra parce que déjà, l'oppression me concerne toujours. Les paroles biphobes, les pressions sociales biphobes me concernent toujours. Sur un truc plus positif, mon imaginaire érotique, il ne change pas parce que je suis en train de ken avec un cis-type. Ma façon de baiser, elle est influencée par mon orientation sexuelle avec toutes les personnes avec lesquelles je baise. Le but... Ce qui devrait être le but de tout le monde, mais qui est mon but personnel, le but étant d'éclater les normes de l'hétérosexualité. En fait, il y a un moment, il faut bien essayer aussi de les éclater avec des cis-types. Et niquer l'hétéronormativité, ça passe aussi par niquer différemment entre cis-mec et cis-meuf. Parce qu'à terme, ça n'existera même plus tout ça. L'hétérosexualité, c'est la domination. La baise hétérosexuelle, c'est baiser comme les normes de la baise hétérosexuelle le réclament. Du coup, logiquement, on doit pouvoir s'extirper de ces normes, même si on est un cis-type, plus une cis-meuf qui font du sexe. Et c'est juste que ça demande de casser pas mal d'automatismes et de se pencher sur la question plus de 30 secondes. C'est ni sans faille, ni facile, à cause, entre autres, de notre adhésion à notre genre attribué et des automatismes de comportement sexuel qui vont avec... Mais c'est possible. Voilà. Bisous, c'est la fin de l'émission. Je vais vous laisser avec un morceau de musique. Oui, alors tout à l'heure, pendant la lecture pornographique, il y avait de la musique un petit peu en fond sonore à plein de moments. Et c'était un groupe qui s'appelle Wet Kiss. Et que j'ai découvert tout à l'heure sur Bandcamp, évidemment. Et du coup, je vais vous mettre le morceau que j'avais mis en fond sonore en entier pour clore l'émission. Sinon, des litres de salive, c'est tous les quatrièmes dimanches du mois sur le 89.5 de Radio Dio. À bientôt, et je vous laisse avec le morceau Uncompromised Love Affair.
To me in my ear. affair, love affair, love affair. Rape and torture everywhere, love affair, love affair. Uncompromised, love affair. Everything in my dream is so surreal when you are me. You can rearrange. Everything is deranged. Love affair. Love affair. If I die, I die, and if I die, I'm a 35. I must ask the question, why to myself? Why is the question I ask myself? This love affair, love affair.